et on est en pleine étude de l'évangile de Jean. Mais là, on va faire une pause ce dimanche et nous allons étudier la lettre de Philémon qui se trouve page 786 dans vos Bibles blanches. Et avant de laisser la place à Trévor, je vais prier. Bien Père, nous te remercions pour ta parole et nous te prions qu'effectivement nous poursuivions notre adoration à toi par notre écoute de ta parole. Nous te remercions parce que tu te révèles, parce que nous pouvons te connaître personnellement, nous pouvons savoir qui tu es, nous pouvons savoir que tu nous aimes, et nous pouvons t'aimer en retour à travers ta parole, à travers cette connaissance que nous avons de toi. Et que nous soyons à l'écoute, Seigneur, je te prie. Amen.
Voilà, nous sommes à la page 786, Philémon, l'épître de Paul à Philémon. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, notre bien-aimé Appia, à Archie, notre compagnon de combat, et à l'église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour. Car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant. Celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi. Il le sera d'autant plus pour toi. Dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et si tu as fait du tort ou te dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai. Sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Oui, frère. Rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Jusqu'ici la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a eu des personnes dans votre vie qui vous ont influencé? Est-ce qu'il y a eu peut-être un prof au lycée qui vous a inspiré? Ou c'est peut-être un de vos parents qui vous a le plus inspiré? Peut-être vous avez décidé de faire le même métier que lui. Alors aujourd'hui, c'est un peu à la mode de parler de coaching ou du mentoring. Il faudrait par ailleurs demander à l'Académie française de traduire ces termes. Alors un coach, c'est quelqu'un qui nous aide à mieux performer dans la vie, à faire mieux, à atteindre nos objectifs en nous coachant, en nous motivant. Un mentor, c'est souvent quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus expérimenté dans la vie, qui vient pour nous accompagner pour un moment, pour nous orienter, pour nous aider à apprendre des choses. Alors dans la vie chrétienne, on ne parle pas vraiment de coaching ou du mentoring, mais on parle du discipulat. C'est un peu différent. Parce que nous sommes tous disciples de Jésus. On ne devient pas le disciple de quelqu'un, sinon de Jésus. C'est Jésus qui est le leader, et ensemble, nous apprenons comment le suivre. Mais parfois, un autre suiveur, le mot disciple veut dire suiveur, un autre suiveur de Jésus, peut-être plus âgé, peut-être plus expérimenté dans la foi, peut nous aider, peut nous accompagner pour un moment, pour que nous fassions un bon avant pour que nous sachions comment suivre Jésus. Il y a peut-être eu des personnes dans votre vie qui vous ont aidé de cette manière-là. En tout cas, moi, j'en ai bénéficié. Alors, ce matin, en nous plongeant dans cette lettre, cette petite lettre, je vous soumets que nous allons gagner un aperçu de ce disciple-là. Nous allons lire, nous avons lu une lettre personnelle, une lettre privée, qui a été adressée à un disciple de Jésus-Christ par un autre disciple de Jésus-Christ, en l'occurrence l'apôtre Paul. Cette lettre, même si elle était de nature personnelle, privée, a été publiée par la suite pour toute l'Église. C'est pour ça que nous l'avons dans la Bible. Donc elle nous est adressée pour que nous puissions nous aussi grandir dans notre disciple, à devenir de meilleurs disciples de Jésus-Christ. En lisant cette lettre personnelle, nous gagnons aussi un aperçu de la nature historique de notre foi. On voit que nous sommes au 1er siècle, probablement aux alentours de 62 après Jésus-Christ, une trentaine d'années seulement après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Moi, j'avais 9 ans, il y a 30 ans. Et c'est vrai, ça me paraît loin dans le temps. Mais sans doute dans 10 ans, je vais dire, ah oui, il y a 30 ans, c'était comme hier. C'est vrai, je me souviens bien de ce qui se passait quand j'avais 19 ans. Donc probablement dans 10 ans, je vais dire, oui, c'était comme hier. Et sans doute des personnes ici plus âgées que moi peuvent confirmer que quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans, c'était comme hier. En tout cas, on a ce témoignage de personnes qui suivaient Jésus. Le Messie crucifié par des hommes, le Messie ressuscité, glorifié par Dieu, simplement il y a 30 ans. Et donc, ils donnent ce témoignage, ils parlent de leur vie de disciple de Jésus-Christ 30 ans après les faits. Et l'apôtre Paul se trouve en prison, on voit ça dans les versets 1, 10, 21 et 23. L'apôtre Paul est probablement à Rome. Et on sait qu'à la même époque, lorsqu'il était en prison à Rome, probablement à Rome, il a écrit d'autres lettres, d'autres livres du Nouveau Testament, le livre adressé aux Éphésiens, la lettre adressée aux Colossiens et aussi celle adressée aux Philippiens. Manifestement, cette personne, Philémon, à qui Paul écrit cette lettre, venait de la ville de Colosse, l'église des Colossiens. Et la ville de Colosse se trouve aujourd'hui au milieu du pays de la Turquie. On pense qu'il faisait partie de cette église parce qu'on voit au verset 2 cette autre personne, Archippe, Et on sait de la lettre aux Colossiens qui faisait partie de l'église de Colosse. Et cette église a dû être implantée lorsque l'apôtre Paul exerçait un ministère à Éphèse, aussi en Turquie. Et peut-être quelqu'un a apporté l'évangile à Colosse, quelqu'un qui a appris l'évangile à Éphèse. Et peut-être c'est même Philémon. Peut-être c'est Philémon qui est allé avec l'évangile, peut-être avec d'autres personnes. On voit au verset 2, 3, que, au verset 1 plutôt, en fait, que Philémon est bien un collaborateur de l'apôtre Paul. Donc c'est bien quelqu'un qui a œuvré avec lui. Et donc c'est peut-être lui qui est allé avec l'évangile. On voit bien que le Nouveau Testament lui raconte l'histoire, l'histoire vraie du début de l'Église. On n'est pas juste là dimanche matin pour parler d'idées spirituelles, mais on est là pour parler de réalité historique. Cet évangile est vrai, c'est un fait historique. Nous avons entre nos mains ce matin une lettre personnelle, historique, authentique, qui parle de deux disciples de Jésus-Christ. Alors, on va commencer ce matin avec le pourquoi de cette lettre. Pourquoi est-ce que Paul a écrit cette lettre à Philémon? Et c'est vrai, lorsqu'on étudie la Bible, c'est une question fondamentale. On doit poser cette question. Pourquoi est-ce que l'auteur dit ce qu'il dit? Alors, si un jour vous avez le malheur de recevoir une telle lettre dans votre courrier, vous aurez à l'interpréter. On ne voit pas bien sur cet écran, mais peut-être sur les autres écrans, on voit un peu mieux. En haut, il y a un logo. Cette lettre vient de la part de l'État. Donc, elle est importante. Ce n'est pas le genre de lettre qu'on met simplement tout de suite avec les pubs à la poubelle. Ensuite, on voit malheureusement que cette lettre nous est adressée. Ensuite, on voit que la vitesse de notre véhicule a été contrôlée à un moment précis de l'histoire. Et selon la loi française, qui est articulée dans la lettre, c'était une vitesse excessive. Aussi, à ce moment-là, vous décidez quand même de juste mettre la lettre à la poubelle sans rien faire. Je pense que vous n'aurez pas compris le sens, l'application de cette lettre. Vous pouvez beau contempler la beauté de la loi, la justice de la loi française. Vous pouvez beau contempler la bienveillance de l'autorité de l'État. Mais si vous ne lisez pas un peu plus loin pour voir que la vraie application de cette lettre, c'est le paiement d'une amende, ben vous serez complètement à côté de la plaque. Et en plus, l'amende va être majorée par la suite. Eh bien, lire et interpréter la Bible n'est pas foncièrement un exercice très différent. Certes, il nous faut de l'humilité. C'est un écrit inspiré par l'Esprit. C'est une lettre qui nous est adressée par Dieu. Il nous faut l'aide de l'Esprit pour la comprendre. Non pas parce que le sens des mots est tellement différent et compliqué, mais juste parce que nos cœurs ne veulent pas recevoir sa révélation. Mais on doit enquêter, lire les mots et enquêter sur le sens, réfléchir à l'application de ces mots. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Et Philémon a dû faire la même chose avec cette lettre. Il a dû lire la lettre et comprendre les mots, l'interpréter et ensuite passer à l'application. On va relire la lettre. On va essayer de voir ce qu'il devait faire. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir qu'est-ce que cette lettre veut dire pour nous ici, dans cette église, au XXIe siècle. J'ai loupé le siècle. On voit au verset 1, dans cette lettre, qui l'a écrit? C'est un peu comme le logo. Cette lettre vient de l'apôtre Paul, avec toute l'autorité de l'apôtre. Et on voit aussi qu'il a été écrit à Philémon. On voit aussi que Paul s'adresse aussi à Appia, je ne sais pas comment on dit exactement. On pense, ou certains pensent que c'était peut-être sa femme, on ne sait pas. Peut-être que Archip était leur fils, on ne sait pas trop non plus. Peut-être Paul s'adresse à toute la famille. Paul a certainement beaucoup d'estime pour Philémon. Il appelle son co-ouvrier, collaborateur bien-aimé. On voit aussi que c'est un homme qui sait prendre soin de l'Église, qui sait prendre soin des frères et sœurs. Parce que c'est un homme généreux, c'est un homme bienveillant. Toute l'Église se réunit dans sa maison. C'était un peu la pratique à l'époque. Il est de toute évidence un homme établi dans la vie, qui a une bonne situation financière. Et Philémon met à la disposition de l'Église ses biens, sa maison. À partir du verset 4, Paul fait mention de ses prières pour Philémon. À l'époque, c'était très typique dans les lettres de parler de cette manière-là. Paul expose sa prière. Il nous explique que Philémon est un homme de foi, quelqu'un qui croit sincèrement en Jésus-Christ. On voit aussi que Philémon n'était pas un nouveau converti, mais vraiment un chrétien mûr dans la foi. Il aime l'Église. Il aime tous les saints. Les saints, ça veut dire tous les chrétiens, tous les disciples de Jésus. C'est au verset 6 que nous commençons à cerner le but de cette lettre, l'objectif de Paul. Il le dévoile dans sa prière. C'est souvent le cas dans les lettres de Paul. Les prières de Paul au début, elles ne sont pas simplement des prières accessoires, mais elles nous montrent le pourquoi de ces lettres. Il prie verset 6 afin que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Christ. Alors, c'est un peu compliqué ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, c'est un verset qui est très difficile à traduire. Si on devait comparer avec d'autres traductions françaises, on verrait que parfois il y a des différences. Pourtant, c'est un verset clé dans cette lettre. Et je pense en gros que Paul veut que Philémon grandisse dans la foi. C'est la prière de Paul. Il veut que Philémon fasse un bond en avant dans sa maturité chrétienne, en comprenant mieux tout ce que nous avons de bon en Jésus-Christ. Et en tout cas, c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette lettre. Au verset 7, Paul lui parle de l'amour de Philémon. Il n'est pas un chrétien immature, mais mûr. Il aime les saints, les chrétiens. On nous dit qu'il est un chrétien qui a déjà fait beaucoup de bien à son Église. Il a, je cite, « tranquillisé le cœur des saints ». Et c'est vrai, ça c'est quand même une drôle d'expression, « tranquilliser le cœur des saints ». Et c'est une expression qui évoque le repos, donner du repos, rafraîchir, faire du bien. Jésus a utilisé la même expression, on le voit dans l'évangile de Matthieu. C'est une citation assez connue. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Je tranquilliserai votre cœur. » Philémon est un homme qui a déjà fait beaucoup de bien, qui a donné du repos à ses frères et sœurs. Il les a vraiment aidés dans la foi. Mais Paul veut qu'il avance, qu'il le fasse encore plus. Ça, c'est un peu ce qu'on voit à la fin de cette lettre, au verset 20. Paul dit de manière claire, « Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. » Paul veut qu'il fasse un bond en avant dans la foi pour faire encore plus de bien à Paul lui-même, mais aussi à toute l'Église. Commence à cerner aussi l'intérêt de cette lettre pour nous. On est tous des suiveurs, des disciples de Jésus-Christ. Et on veut faire du bien à nos frères et sœurs. On veut faire du bien à l'Église. Et cette lettre peut nous aider à faire un bond en avant dans la foi, dans notre maturité chrétienne. Alors, mais qu'est-ce que Philémon devait faire pour donner du repos au cœur de Paul? Qu'est-ce qu'il devait comprendre et faire au juste? Et Paul va l'expliquer dans le corps de cette lettre. Il va l'expliquer de manière assez persuasive. Je dis de manière persuasive parce que Paul ne veut pas simplement contraindre Philémon de faire quelque chose. Même si, très clairement, Paul s'attend à ce que Philémon lui obéisse. C'est quand même l'apôtre Paul qui parle. Le verset 8 nous explique que Paul aurait pu simplement donner un commandement à Philémon. Mais Paul choisit consciemment une autre approche, celle de l'amour. Là, on lit, verset 8, « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. » Paul veut qu'il fasse un bond en avant dans sa maturité chrétienne, mais il faut que ça vienne du cœur. Il ne faut pas que ça soit une simple obligation, une simple contrainte. Il veut que le cœur de Philémon soit transformé par l'amour, par l'évangile lui-même. C'est pareil pour nous, on veut faire des bonds en avant, non pas simplement parce que quelqu'un nous contraint de faire ça, nous oblige par le légalisme, par une loi, mais on veut que nos cœurs soient transformés par l'évangile, pour que nous puissions, motivés par l'amour, aimer nos frères et sœurs. Alors la requête concerne Onésime, c'est probablement la personne qui a porté cette lettre aussi. Alors qui c'est Onésime? On voit dans cette lettre qu'il s'agit d'un esclave, un esclave fugitif qui appartenait à Philémon. Il a fui la maison de Philémon, et d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas trop comment et quand, il est atterri à Rome, ou en tout cas là où Paul se trouve. Il y avait beaucoup d'esclaves fugitifs à l'époque qui fuyaient dans les grandes villes, c'est là où on pouvait se cacher. C'était très risqué de s'enfuir comme esclave. Il risquait parfois la mort. On ne sait pas trop pourquoi il est parti. De ce que Paul lit plus loin, il est possible qu'il avait une dette, peut-être qu'il avait même volé de l'argent, pris de l'argent dans la caisse de Philémon. On ne sait pas non plus pourquoi il a trouvé Paul à Rome, pourquoi il est allé le chercher. Peut-être Philémon lui-même avait parlé de Paul, peut-être en bien, et Onésime s'est dit, voilà, je vais peut-être trouver de l'aide auprès de cet homme. En fait, tout ce que nous savons, c'est qu'il a trouvé Paul. Et Paul a dû lui parler de Jésus. Le langage de l'apôtre Paul est très tendre. Au verset 10, nous lisons, « Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. » Et c'est l'évangile lui-même qui a produit cette tendresse. Paul lui a parlé de Jésus. Il lui a parlé du chef de l'univers, Jésus, le juge de tout homme, le Fils de Dieu, qui de manière volontaire s'est abaissé pour prendre sur lui le châtiment des fautes et péchés de son peuple. Paul a parlé d'un sauveur qui pouvait sauver Onésime, qui pouvait sauver Onésime de la colère de Dieu. De la colère de Dieu à l'égard de sa faute, son péché, tout ce qu'il avait fait dans la vie. Paul lui a parlé d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de justice, qui est aussi un Dieu d'amour, un Dieu qui est si juste et si amour qu'il a donné son Fils pour prendre à notre place la peine que nos fautes méritent, pour satisfaire sa propre justice. Et manifestement, cet Onésime a mis sa confiance en Jésus. Il a saisi la grâce, il a saisi le pardon de Dieu. Et c'est pour ça que Paul pouvait parler d'Onésime comme un fils, qu'il a eu un fils en prison. En fait, c'est grâce à cette nouvelle naissance, le fait qu'Onésime est venu à la foi et qu'Onésime est devenu un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il peut parler d'Onésime comme un fils. En passant, ça c'est vrai pour nous tous, ça. On peut tous naître de nouveau, venir à la foi, mettre notre confiance en Jésus, accepter le pardon de Dieu et renaître. C'est jamais trop tard. Quoi que nous ayons fait dans la vie, le pardon de Dieu nous est offert en Jésus. C'est peut-être le moment ce matin d'accepter ce pardon, de, vous agenouiller devant Jésus, le chef de l'univers, d'accepter qu'il est le roi de l'univers, qui est mort pour nos fautes. Paul explique à Philémon que son esclave a été transformé par Jésus, transformé par l'Évangile. Au verset 11, Paul dit que cet esclave n'est plus inutile, mais utile. Sans doute, en estime, était un esclave un peu rétif, qui avait été un peu inutile. Et Paul explique à Philémon qu'en estime, a été transformé par la grâce. Et dorénavant, il va être utile. En fait, le mot « onésime » veut dire « utile ». Et Paul joue un peu avec les mots. Onésime a été tellement changé par l'Évangile qu'il est même prêt à revenir à Philémon. Certes, on le voit ici, c'est Paul qui va le renvoyer. Paul ne veut pas le renvoyer. Il veut le garder. Mais Philémon doit être prêt à revenir. Paul aurait bien aimé garder ce Philémon avec lui. Onésime avec lui, mais il sait que s'il avait fait ça, s'il devait faire ça, il se mettrait en porte-à-faux avec son maître Philémon. Il se dit ici que oui, il pourrait potentiellement compter le service d'Onésime comme le service de Philémon, mais en fait il ne veut pas contraindre Philémon de faire ça. Non, il veut que la foi de Philémon fasse un bond en avant, qu'il soit un disciple encore plus mûr dans la foi et qui fait encore plus de bien à l'Église. Et c'est au verset 15, et verset 15 à 16, que nous voyons le cœur de cette lettre, le cœur de cette requête. Et on voit le cours de discipulat de Paul. Il veut que Philémon change de perspective, change radicalement de perspective et met en application sa requête. Paul lui demande de voir les choses d'une autre manière. Il lui demande de prendre la hauteur et même de considérer la souveraineté de Dieu. Il dit verset 15, « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours. » Et là, Paul suggère que c'est Dieu. C'est Dieu dans sa souveraineté qui aurait fait ça. Et Paul suggère que Dieu aurait fait ça pour le meilleur, que Dieu aurait fait ça pour donner un cadeau à Philémon. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours. Et ensuite, verset 16, non plus comme un esclave, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Alors Paul demande à Philémon de changer de perspective, de ne plus voir Onésime comme un esclave, mais comme un véritable frère en Christ. Est-ce que vous voyez comment l'Évangile, peut-être de manière subtile, peut-être de manière moins subtile, s'attaque à cette institution néfaste, mauvaise de l'esclavage? En Jésus, ce lien déshumanisant est transformé. En fait, je pense que Paul va encore plus loin que ça. À la fin du verset 16, verset 17, il dit « Il est particulièrement pour moi, donc un frère, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. » Alors ça veut dire que ce nouveau lien fraternel n'est pas juste un truc abstrait, spirituel, pas juste un truc pour l'Église, pour une réalité simplement en Église. Mais c'est quelque chose de tangible, de physique. Littéralement, c'est marqué dans la chair et dans le Seigneur. Et je pense que c'est une invitation à changer de fond en comble leur relation. Et d'en fonder une nouvelle basée sur, non pas sur les liens économiques, mais sur leur adoption commune en Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Paul veut que Philémon considère Onésime comme un enfant de Dieu, un frère en Christ, et même un collaborateur avec lui dans l'œuvre de l'Évangile. C'est comme ça que Paul le voit. Paul le voit maintenant comme quelqu'un d'utile, comme un co-disciple, comme un co-ouvrier dans le Seigneur, quelqu'un qui est engagé dans le même combat. Et ensuite, Paul va encore plus loin. Il dit, verset 17, « Si donc tu me considères comme ton ami ou comme ton partenaire dans l'Évangile, accueille-le comme si c'était moi. » L'apôtre Paul veut que Philémon traite son esclave fugitif comme s'il était l'apôtre lui-même, avec l'honneur et l'estime qu'il aurait donné à l'apôtre Paul. Et pourquoi, sur quelle base? Simplement parce qu'il est un frère en Christ. Simplement parce qu'il est devenu un enfant de Dieu. On estime à dorénavant le même Père aux cieux que Philémon. Et ensuite, comme pour enlever tout obstacle à cet accueil, Paul invite Philémon à mettre au compte de Paul toute l'aide financière qu'on estime devait à Philémon. En fait, il invite Philémon au pardon de cette dette, de voir en ce frère un frère qui a été également pardonné par le même Père. Alors, Onésime a dû trembler en revenant à Colosse avec cette lettre. Mais sans doute, Philémon a fait ce que Paul lui a demandé de faire. C'est pour ça, je pense, que nous avons cette lettre. Sans doute, s'il n'avait pas fait, je pense que cette lettre aurait été oubliée, détruite quelque part. Et sans doute, Philémon a fait ce bond en avant dans la foi. Il l'a accueilli comme un frère. Et c'était pour ça que nous voyons à la fin de l'Épître aux Colossiens, c'est un autre livre de la Bible, que c'est Onésime qui a apporté la lettre destinée à l'église de Colosse de la part de Paul. C'est parce que peut-être Philémon l'a émancipé pour qu'il puisse être dans l'équipe apostolique de Paul, pour être un co-ouvrier, un frère co-ouvrier dans l'Évangile. Et en faisant ça, Philémon s'est montré un partenaire fidèle. Il s'est montré un disciple qui a grandi, qui a fait un bond en avant dans sa maturité. Il a vu de manière plus claire comment l'Évangile est bon et libérateur. Comment l'Évangile crée un peuple, une famille même, une famille de frères et de sœurs qui sont égaux devant Dieu. Une famille de frères et de sœurs qui s'encouragent dans le service du Seigneur. Or, si nous devions nous arrêter là, je pense que ça serait un peu comme si nous mettions ce PV dans la poubelle tout de suite. Cette lettre, nous l'avons dans la Bible, non pas pour nous raconter simplement une histoire vraie de l'époque, mais pour nous donner un cours de discipula, pour nous aider nous aussi à faire un bond en avant dans notre discipula, dans notre maturité dans la foi chrétienne, pour que nous soyons des frères et sœurs qui fassent encore plus de bien à l'Église, encore plus de bien à nos frères et sœurs. Alors qu'est-ce que nous pouvons apprendre ce matin de Philémon? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre ce matin dans les signes? C'est vrai, on n'est pas dans la même situation qu'eux, peut-être dans d'autres endroits du monde, peut-être où il y a certains types d'esclavage, c'est certaines applications très concrètes. Mais je pense que fondamentalement, ce que nous devons retenir de cette épître, est que nous devons toujours, et encore plus, vivre ensemble en tant que frères et sœurs en Christ. Nous devons discerner en nos frères et sœurs des véritables frères et sœurs qui sont engagés dans le même travail que nous, qui ont le même Père que nous, qui ont le même grand frère Jésus-Christ. On vient de milieux différents, on vient de pays différents. Certains ont beaucoup d'argent, peut-être d'autres ont beaucoup plus de mal à boucler leur fin de mois. Certains ont beaucoup de diplômes, d'autres n'en ont pas. Certains ici sont peut-être issus de familles nobles, bourgeoises, mais d'autres viennent de familles plus nobles, plus modestes. Mais en Christ, parce que nous avons été nés de nouveau par le même Père, par le même Esprit. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes une famille dans le Seigneur. Et je pense que pour ceux qui nous regardent de l'extérieur pour des non-croyants, c'est ce qui est vraiment radical chez les chrétiens. À titre d'exemple, un PDG chrétien. Un PDG chrétien qui travaille à la Défense, qui a fait HEC, se soucie d'un autre frère dans son église qui a un poste beaucoup plus modeste, peut-être dans la même entreprise ou ailleurs. Ou même plus que ça, ils prient l'un pour l'autre, ils s'intéressent l'un à l'autre, ils s'épaulent mutuellement dans la foi, parce qu'ils se savent fondamentalement égaux devant Dieu, fils du même Père. Rien d'autre dans la vie n'aurait fait croiser leur chemin, mais en Christ, ils sont devenus des frères. Alors, qu'est-ce qui changerait dans nos rapports humains si cette vérité était encore plus ancrée dans nos cœurs? Qu'est-ce qui changerait si on faisait ici dans cette église un bond en avant dans ce domaine? Paul nous invite à nous accueillir réciproquement d'une manière digne. Paul savait qu'il pouvait compter sur l'hospitalité de Philémon. On le voit au verset 22, je trouve qu'il le dit d'une manière très directe. Peut-être à cette époque-là, il parlait d'une manière un peu plus directe. Là, il dit « Prépare-moi un logement ». Pour lui, c'est une évidence. Philémon allait le faire, c'était sûr. Paul nous invite à accueillir nos frères et sœurs. Il nous invite à la générosité, à la libéralité, avec nos biens, mais aussi avec notre temps. C'est le fait de nous montrer soucieux pour les autres. Soucieux des autres. Les personnes qui vous entourent ce matin, à votre gauche, à votre droite, ne sont pas simplement des personnes inconnues, des personnes qui n'ont rien à voir avec vous, ou des personnes simplement que vous croisez un dimanche matin, un jour sur sept. Mais en Christ, ils ont mis leur confiance en Christ, ils sont vos frères et sœurs, les membres de votre famille. Dans les familles plus ou moins fonctionnelles, les frères et les sœurs s'aiment. Ils aiment passer du temps ensemble. Et ils savent que si jamais il y a un pépin dans la vie, bah, les frères et sœurs vont être là pour eux. Oui, c'est vrai que l'Église est bien imparfaite, l'Église est rarement à la hauteur. Toute l'Église est en chemin. On est une famille, fort heureusement, au bénéfice de la grâce. En fait, celui qui est au bénéfice de la grâce du Seigneur montrera cette même grâce aux autres frères et sœurs lorsqu'ils n'arrivent pas à être à la hauteur, lorsqu'ils n'arrivent pas à aimer comme il faut. Parfois, c'est facile de pointer du doigt et dire « Oui, l'Église ne m'a pas aimé comme j'aurais souhaité. » Mais quelque part, c'est l'aveu de notre propre manque de grâce. Paul invite à Philémon, il invite à user de bienveillance à l'égard d'Onésime. Il invite au pardon en proposant lui-même de payer sa dette. Et ce pardon, c'est vrai, est au cœur de nos relations humaines. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus ont été libérés de leur dette. Comment? Par le sacrifice de Jésus. Et ce même pardon doit être librement donné à nos frères et sœurs. Ça vaut la peine de poser la question, est-ce qu'il y a ici un frère, une sœur, que vous avez du mal à accueillir, que vous avez du mal à pardonner, à aimer comme un véritable frère en Christ? Paul nous invite à faire un bond en avant. Alors, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça soit l'amour qui nous motive, il faut que ça soit l'amour de Jésus qui nous motive. Et cet amour, on l'a au pied de la croix, grâce à ce que Jésus a fait à la croix, en recevant nous-mêmes son amour, son pardon. C'est ça ce qui nous donne la force de pardonner autrui. Nous voyons ici que Paul ne veut pas que ce souci familial soit juste axé sur le confort ou sur l'amitié. Mais il veut que ce souci soit axé sur le service. Onésime est devenu un cher frère, bien utile dans le service. Paul veut le garder. En fait, comme un commentateur dit, il veut que Philémon le libère pour qu'il puisse servir pleinement, librement le Seigneur. Et de même, c'est un souci que nous devrions avoir pour nos frères et sœurs. Nous devrions vouloir les voir actifs, épanouis dans le service du Seigneur. Ça veut dire avoir un souci authentique pour la marche de nos frères et sœurs dans le Seigneur, la vie de disciples. On va avoir ce souci de les voir grandir en Jésus, dans l'amour de Jésus, dans l'amour pour les frères et sœurs. On ne veut pas qu'ils soient arrêtés par les obstacles. Et dans cette lettre, on voit ce souci de Paul. Il veut que Philémon fasse un bond en avant. Paul a ce souci pour lui. On veut que ce souci soit le nôtre. Et ce souci naît probablement aussi dans la prière lorsqu'on prie les uns pour les autres, tout comme Paul priait pour Philémon. Il y a la réunion de prière ce jeudi, c'est l'occasion pour nous de prier les uns pour les autres. Et aussi le calendrier de prière qui est sorti ce matin, c'est un moyen pour nous, pour que nous puissions prier les uns pour les autres dans la semaine. Avoir ce souci de voir nos frères et sœurs grandir dans la foi. Peut-être que vous avez envie, comme Philémon, d'avoir quelqu'un qui peut vous accompagner un peu dans la foi chrétienne, de manière un peu plus personnelle. Pourquoi ne pas demander à un des anciens de vous recommander quelqu'un qui peut passer un peu de temps avec vous, peut-être une fois, deux fois dans le mois, pour lire la Bible, pour prier ensemble. Je pense que le défi de cette lettre va au-delà de l'église locale aussi. Elle concerne l'église qui se réunit sur toute la surface de la terre. Nous avons des frères et sœurs ailleurs, en Asie, en Afrique, aux Amériques, en Europe. Et c'est vrai, comme Jonathan a dit tout à l'heure, on a des frères et sœurs qui parfois passent par des moments très difficiles. On ne va pas les considérer comme des simples inconnus lointains, mais vraiment comme des frères et sœurs dans le Seigneur. On va s'intéresser à leur vie, prier pour eux, les aider avec les moyens qui sont les nôtres. Ce passage va très loin, n'est-ce pas? C'est un vrai défi pour l'Église. Un vrai défi vraiment de voir ceux qui nous entourent comme des véritables frères et sœurs. Ceux qui ont le même père, qui ont mis la confiance en Jésus, qui ont le même frère, le même grand frère que nous. Je vous invite, peut-être après cette rencontre, peut-être pendant le repas d'église, à discuter entre vous, vous poser des questions, voir s'il n'y a pas d'autres applications pertinentes qui découlent de ce passage. Je pense qu'il y a sans doute plus d'applications que celles que j'ai mentionnées. En tout cas, on va prier le Seigneur pour qu'il nous aide à décerner en nos frères et sœurs, des vrais frères et sœurs. Et lui demander de nous aider à vivre cette réalité, cette semaine. Prions. Notre bon Père Céleste, merci de ce qu'on peut venir devant toi ce matin, dans l'assurance du salut, dans l'assurance que grâce à Jésus, grâce au pardon qu'il peut nous donner, que nous pouvons être, nous sommes frères et sœurs, nous sommes tes enfants. Et Père, nous voulons te demander de nous aider. Bien souvent, on traite nos frères et sœurs comme des inconnus ou comme de simples amis, de simples connaissances. Aide-nous dans cette assemblée, mais aussi dans d'autres assemblées, vraiment de décerner les frères et sœurs et les traiter ainsi. Donne-nous de faire un bond en avant, comme Philémon a fait un bond en avant. Donne-nous de voir la portée de l'évangile, voir la grandeur de cet évangile qui nous libère tous pour être tes enfants. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Levons-nous pour chanter Dieu ta fidélité.